enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Le message que vous allez écouter vous est présenté par l'association chrétienne CIV, Centre d'évangélisation Esprit et Vie, dont la vision est d'apporter par l'Esprit de Dieu l'Évangile qui a franchi de toute servitude. Nous espérons qu'il transformera votre vie. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante. CIV Talence, 244 Avenue de Thouars, 33400 Talence. Téléphone 09 51 41 31 20 ou au 06 60 49 69 18. Email civ.talence@hotmail.fr. Merci et bon confort d'écoute. Que Dieu vous bénisse.
Le diable, depuis qu'il est devenu diable, n'a qu'un seul but, c'est celui d'empêcher l'homme à connaître Dieu. Parce que le but du diable était de prendre la place de Dieu. Il voulait être adoré, il voulait être considéré comme Dieu. Et donc, il a eu dans son désir, quand il s'appelait encore Lucifer, ce désir malsain de vouloir prendre la place de Dieu. Et comme il n'a pas réussi, alors Dieu l'a précipité sur la terre, donc la planète Terre. Et alors que cette planète Terre était réservée à l'homme depuis la création, le diable s'est donné un objectif, c'est de pouvoir séduire cet homme et de prendre cette planète afin d'en faire son royaume. Alors il a réussi son objectif et donc il a construit la Terre. Il a construit comme étant un royaume parallèle au royaume de Dieu. Et donc, il s'est organisé. Et Éphésiens nous parle de l'organisation satanique. Les princes de ce monde, les esprits méchants, les célestes, les puissances des ténèbres, et toute l'organisation satanique. Et on a déjà enseigné ici également sur le triangle satanique, le clavier satanique, donc toutes les portes du séjour des morts. Il y a toute une organisation et le monde entier est sous le contrôle du malin. La Bible déclare que le diable est le prince de ce monde. Il gouverne ce monde parce qu'il a réussi à prendre le contrôle de la terre. Alors qu'il était donné à l'homme de pouvoir dominer et régner sur la terre. Donc c'était un royaume parallèle. Dieu règne dans le ciel. Et la volonté de Dieu, c'est que nous, les hommes, puissions régner sur la terre. Mais le diable a réussi à prendre le royaume qui appartenait à l'homme et il règne sur la terre. Mais Jésus est venu afin que nous puissions reprendre ce règne. Alléluia. Et donc, le diable est conscient de ce que Christ a accompli sur la croix de Golgotha comme puissance, comme sacrifice, comme pouvoir par son sacrifice. Et donc, il empêche l'homme de comprendre la vérité parce qu'il sait que si l'homme connaît la vérité le rendra libre. Et donc, l'homme pourra reprendre sa position initiale et gouverner la terre et régner sur la terre. Alors, il a réussi à corrompre beaucoup de personnes qu'on appelle aujourd'hui des païens, des non-chrétiens. Et il s'attelle à ce que chaque jour, ces personnes ne connaissent pas Dieu. Maintenant, cela, ce n'est pas une inquiétude pour le diable, parce que à partir du moment où il les a liés, il les a enchaînés, il les a gardés là, il veille simplement à ce qu'eux, ils ne se détournent pas de ses voies. Mais qu'ils marchent fidèlement dans ses voies pour accomplir tout ce qu'il veut. Maintenant, les gens qui effraient le diable, les gens qui sont véritablement un danger pour le diable, ce sont les chrétiens. Parce que les chrétiens sont ceux-là, au sujet de qui il est dit, ils connaîtront la vérité et la vérité leur rendra libre. Donc, ils ont connu la vérité, Jésus étant la vérité, alléluia, ils ont connu Jésus et ils ont été affranchis. Et donc, Jésus leur a donné sa parole. Et chaque jour, quand les chrétiens lisent la parole de Dieu, ils découvrent la vérité, ils découvrent Christ. Et de plus en plus, ils deviennent libres, ils sont affranchis. Et donc, En fait, un chrétien qui chaque jour est en contact avec la vérité, découvre la vérité, il a franchi. En fait, il est dans un processus permanent d'autodélivrance. Et c'est ça qui fait peur au diable. De voir des gens être libérés, connaître la vérité, connaître Dieu. Et Jésus a dit, la vie éternelle, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Et Jésus qui l'a envoyé son fils. Et l'apôtre Paul disait, mon but est de le connaître, n'est-ce pas? Comme on l'a vu le vendredi dernier. Et le diable s'attelle jour et nuit à combattre les chrétiens pour les empêcher de connaître Dieu. Parce que si les chrétiens connaissent Dieu, bien-aimés, non seulement ils n'auront plus peur du diable, mais ils vont faire des dégâts dans le monde des ténèbres. Et le diable a peur des chrétiens. Et il a surtout peur du livre que les chrétiens détiennent. C'est pour cela que vous allez remarquer que le diable va tout faire chaque jour pour vous empêcher de lire la parole de Dieu. Il sera très facile pour vous de vous abonner à un magazine. Ok? Top Model ou encore Amina ou encore les sœurs. Voici. Paris Mat, c'est pour les frères. J'en viens. Quoi encore? Femme actuelle. Hein? Quoi encore? Citez, vous connaissez. Citez. Tu connais. Tu connais un site, les magazines de sœurs là. Hein, Ludivine? Star ou Starac. Hein? Et on est prêt à investir. Alors les frères, maintenant à votre tour. Hein? Paris Match. Hein? Le Figaro. L'Équipe. Le Monde. Le Point. Hein? On pourrait citer tellement de choses. Et chaque jour, il y en a qui sortent. On n'est pas fatigué d'en lire. On est prêt à dépenser des budgets par mois pour nous abonner, okay, à des magazines, à des journaux. Ce qui n'est pas mauvais, puisqu'il y a des choses très intéressantes, très culturelles, intellectuelles, en fait, qui relèvent de la culture générale, qui sont instructives. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est très facile pour nous de dépenser de l'argent, d'avoir un budget mensuel pour acquérir ces choses. Okay? Mais il est très difficile pour nous de lire ne fût-ce qu'une seule page de la Bible chaque jour. Une seule page seulement. Une seule page seulement. C'est même pas une page A4. C'est plus petit que A4. Moi, je me déplace tout le temps dans les missions de formation, puisque vous savez que je suis formateur aussi dans une entreprise, la place. Loin de moi, l'idée de faire une publicité ici, mais je m'arrête là. Mais chaque fois que je voyage, je suis surpris. Il y a même des fois, je suis fatigué, j'ai envie de dormir, je ne peux pas dormir parce que je me culpabilise, je vois les autres tenter de lire. Donc, pour ne pas paraître aussi, tu es obligé de lire. Mais quand je vois ce qu'ils lisent, moi je lis la Bible, ok, peut-être 2, 3, 4 pages, mais eux, ils lisent des journaux de A3, Le Monde. Et ils sont là. Et tous les jours, ils lisent des A3, au moins, ça fait au moins à peu près 6 feuilles, donc fois 2, ça fait 12 pages. A3. Ils vont le lire durant toute la journée. Sans problème. Avec plaisir. Avec plaisir. Mais pour lire une seule page de la Bible, c'est compliqué. Est-ce que vous imaginez ça? Pourquoi? Parce que le diable combat les chrétiens et les hommes pour les empêcher de connaître Dieu. Et donc le diable combat la lecture de la parole de Dieu. Ça va être difficile pour toi de lire la Bible et très facile pour toi de lire autre chose. Les étudiants. On a au moins 10, 12, 13 matières, n'est-ce pas? Combien? Bon, lui, son option est compliquée. Avec Ludivine et Christine, quand j'aurais posé la question, quand ils m'ont expliqué, mais c'est compliqué, ils ont des modules compliqués. Il y a combien de matières à peu près? 25. Et quand je parle à lui, il me dit, non, pasteur, franchement, non, je suis très content parce que je vais encore apprendre des choses nouvelles cette année, etc. 25 matières. Vous vous rendez compte? compte, mais on a un plaisir, ok, de lire, d'étudier, de voilà. Mais quand c'est la Bible, ça devient lourd. Pourquoi? Mais parce que le diable ne combat pas la médecine. Le diable ne combat pas l'anglais. Le diable ne combat pas les mathématiques. Il ne combat pas femme actuelle. Il ne combat pas le poing, même s'il combat avec des poings. Vous comprenez? Il combat la parole de Dieu pour nous empêcher de connaître Dieu. Il combat la prière pour nous empêcher d'être en communion avec le Seigneur. Et donc, il va empêcher les hommes de se convertir et il va empêcher les chrétiens de connaître Dieu. Non seulement il va vous empêcher de connaître Dieu, mais il va vous empêcher, il veut vous empêcher de pouvoir l'adorer. Parce que lui-même, au départ, il a voulu être adoré. Donc, il cherche à être adoré toujours. Et il s'est fabriqué des adorateurs. Il y a beaucoup d'adorateurs de Satan aujourd'hui, sans même le savoir. Et l'une des stratégies que le diable utilise pour aveugler les hommes, c'est quoi? C'est l'ignorance. Donc, il y en a qui disent, ah non, le diable est mauvais. Mais pourtant, ils sont adorateurs du diable sans le savoir. Parce que le diable leur fait comprendre que ce qu'ils font n'est pas mauvais. Donc, ils peuvent se le permettre. Alors qu'en le faisant, ils deviennent adorateurs de Satan sans le savoir. Et c'est très courant ici, en France. Nous avons une expression que je trouve même dans l'église. Ça me choque. Oh, j'adore ça. Oh, j'adore cette tenue. Oh, j'adore le chocolat. J'adore le chocolat blanc. J'adore le chocolat de Suisse. Oh, j'adore le fromage. Camembert. Je ne sais pas s'il y a beaucoup qui adorent le camembert ici. Hein? J'adore le vin de Pinard. Le vin de Bordeaux. J'adore. Des chrétiens qui parlent comme ça et qui connaissent toutes les marques de vin. Saint-Émilion. Ok. Hein? Tous les châteaux, ils connaissent. Ils maîtrisent les châteaux là. Ils vont tester tel château. Ça a été fabriqué tel château. Ils adorent. Ils adorent. Et ils n'ont pas honte de dire qu'ils adorent. J'adore tel frère. J'adore telle soeur. J'adore tel. Tu adores. J'adore tel aliment. J'adore faire telle chose. La Bible déclare. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Mais on ne se rend même plus compte de ça. Et de façon subtile, le diable rentre dans nos cultures. Il rentre dans notre champ lexical. Il rentre dans notre vocabulaire. Et des choses qui deviennent normales. Et on est là, j'adore. J'adore tel joueur. J'adore le foot. Hein? J'adore telle chose. Mais, et de plus en plus, j'adore telle musique, j'adore tel artiste. Céline Dion. Oui, vas-y, parle. Tu connais faire, vas-y. Du plus fort. Hein? Laurie. Bon, qui suit Star Hack? Parce que moi, je ne regarde pas Star Hack. Bon, je sais qu'il y en a parmi vous qui regardez. Ah, parfois. Bon, pour s'informer ou bien juste parce que ça te plaise, parce que tu adores ça. Parce que... En fait, ce n'est pas mauvais de regarder Star Trek. Hein. Ok? Ce n'est pas mauvais. Lorsque vous étiez... En fait, il n'y a rien dans la télévision, en dehors des choses qui sont obscènes. Il n'y a rien... Okay, qui soit culturel, qui ne puisse être bénéfique même aux chrétiens. D'accord? Si tu regardes Starak pour l'aspect artistique, okay, c'est bien. C'est pas mauvais. Okay? Pour que toi aussi à l'église, tu fasses mieux pour le Seigneur. Parce que si Starak, il y a des belles voix. Toi, à l'église, tu chantes avec une voix. C'est pas normal. Vous comprenez? On doit être les meilleurs. Alléluia. Donc, je disais, ok, beaucoup de personnes adorent et ils se sont fait des idoles. Sans savoir, sans savoir. Et il y a des gens, vous rentrez dans leur maison, ils ont une photo d'un artiste, Johnny Hallyday, ou bien une photo de tel artiste, ou encore de tel footballeur, dans leur chambre même, ok, parce que c'est son idole. Ok? Bon, Zidane, il n'est plus. Hein? Ronaldinho. Il devient très célèbre en ce moment. Ronaldinho. Ok? Bon, Thierry Henry. On va rester en France. Bon, Ronaldinho aussi. Mais, enfin, Ronaldinho n'est pas. Eto'o. Là, c'est le Cameroun. Ok? Et on adore, hein, Jean-Yves? Tu adores le foot? Ah, d'accord. On a fait la guerre à Jean-Yves à l'époque à cause du foot. Et aujourd'hui, il n'adore plus le foot. Donc, il peut rendre témoignage. Mais avant, Jean-Yves, il aimait le foot. Hein? Il aimait le foot. Mais c'est bien le foot. Parce que le foot, maintenant, on a une équipe de football ici. Vous savez, Sea Eagles. Ah, oh, acclamons le Seigneur. Seulement, le frère Jean-Yves a dû lui-même faire un travail dessus parce que le foot, c'était vraiment quelque chose. Il pouvait manquer une réunion pour aller au foot. Donc, c'est son témoignage. Hein? On peut en parler parce que c'est son témoignage. Donc, il a vaincu là-dessus, donc on a pu en parler. Mais avant, c'était difficile. Vous comprenez? Et beaucoup d'entre nous, on a été comme ça. Et quand on vient à la maison du Seigneur, on a parfois encore des choses comme ça qu'on a avec nous. Okay? On n'a pas envie de s'en débarrasser. Pourquoi? Parce qu'on adore ça. Ça prend la place de Dieu dans notre cœur. Et le but du diable, c'est ça. C'est de prendre des choses et mettre à la place de Dieu dans notre cœur, dans notre vie. Le travail peut être pour toi une idole. Ta famille peut être pour toi une idole. Ton mari peut être pour toi une idole. Tes enfants peuvent être pour toi de l'idolâtrie. L'argent peut être pour toi de l'idolâtrie. Et le diable va amener les gens, surtout dans les sociétés développées occidentales, comme dans lesquelles nous vivons, le train de vie est tellement accéléré, on n'a pas le temps pour telle chose, on est tellement concentré dans ce qui nous préoccupe qu'on n'a plus le temps pour Dieu. Et sans se rendre compte, on se rend compte, on est amené à mettre ces choses en avant et ça prend la place de Dieu. Et le diable a reçu son but. Parce que le but c'est quoi? C'est de nous empêcher de connaître Dieu. Quand le peuple d'Israël était en captivité en Égypte, la Bible déclare, Pharaon à un moment donné a dit, donnons-leur encore plus de travail, plus de charges pour qu'ils oublient leur Dieu. Vous comprenez ça? Donc le diable va tout faire pour combattre les hommes, pour les empêcher de connaître Dieu et d'adorer Dieu. Il va utiliser sept armes. La première arme, c'est l'arme du péché. Aujourd'hui, dans la société occidentale, ce n'est pas seulement en France, il y a une philosophie qui circule. C'est la philosophie de l'anticulpabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on est libre. Et comme en France, par exemple, on est libre, les valeurs de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité, n'est-ce pas? Donc la liberté. Et par rapport à l'histoire même culturelle de la France est devenue ce qu'elle est aujourd'hui au prix de plusieurs révolutions. Pourquoi? Pour acquérir la liberté. Et donc cette liberté est tellement chère à la France que pour rien au monde, un Français voudra perdre sa liberté. Il ne faut surtout pas toucher à sa liberté. Et la liberté va à un point où il faut laisser les gens faire tout ce qu'ils veulent. Ok? Et surtout pas les culpabiliser. Donc, alors, la philosophie de la non-culpabilité prend son origine où? Ça prend son origine dans la doctrine de l'humanisme. C'est l'humanisme qui a donné naissance à cette philosophie, la non-culpabilité. C'est-à-dire que quand tu parles à quelqu'un, okay, ne dis pas des mots, n'utilise pas des mots qui vont le blesser, qui vont le culpabiliser. N'utilise pas des mots qui vont amener la personne à pleurer, à choquer la personne. Donc c'est la théorie, le concept de la non-culpabilité. Si quelqu'un, une personne par exemple, a du poids, ne dis pas qu'elle est grosse. Non, il ne faut pas dire qu'elle est grosse. Elle est peut-être enrobée, voilà, d'une fine couche. Si quelqu'un est aveugle, ne dis pas qu'il est aveugle, dis qu'il est malvoyant. Vous comprenez? Si quelqu'un est homosexuel, ne dis pas qu'il est homosexuel. Faut pas dire. Faut dire que il est gay. Il a des tendances. Il a une orientation différente que la nôtre. Mais c'est un homosexuel. Et dans un français brut, c'est un pédé. Ben oui. C'est vrai, non? Ça choque, hein, quand on dit ça. Mais il ne faut pas dire ça. Pourquoi? Parce que quand tu dis ça, c'est quoi, c'est ça? Si quelqu'un est âgé, il ne faut pas dire qu'elle est vieille, la personne. Il faut dire que c'est une personne du troisième âge. Alors qu'il y a de la valeur dans la vieillesse, dit la parole de Dieu. Une grande valeur. La sagesse, l'expérience. Quand on regarde un vieillard, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur descendra sur toute chair. Vos fils, vos filles pourront, vos vieux auront des visions et vos vieillards auront des songes. Non, il ne faut pas dire vieillard. Comprenez? Un paralytique, un boiteux, il ne faut pas dire qu'il est boiteux. Il dit que non, personne à mobilité réduite. Ok? La prostituée, il ne faut pas dire qu'elle est prostituée. Non. Oh, c'est choquant ça. Non. C'est dénigrant. Mais justement, il faut qu'elle sache qu'elle est prostituée. Non, il ne faut pas dire qu'elle est prostituée. Elle est professionnelle du sexe. Vous comprenez? Quelqu'un est ménageur, il ne faut pas dire qu'elle est ménagère. Elle est technicienne de surface. Ça, c'est la théorie de la non-culpabilité. Or, quand vous lisez la parole de Dieu, l'évangile, la Bible appelle boiteux, boiteux. Aveugle, aveugle. Prostituée, prostituée. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu doit être libérée. Même quand l'évangéliste Jean-Baptiste prêche, qu'est-ce qu'il dit? Il dit race de vipères, incrédule. Pourquoi? Parce que ça a un impact dans la conscience des êtres humains et ça les ramène à leur juste réalité. Et ça crée quoi? Ça crée la conviction du péché. Et la conviction du péché par le Saint-Esprit entraîne à quoi? Ça entraîne à la repentance. Et la repentance entraîne à quoi? Au salut, à la conversion, à la nouvelle naissance. Et comme le diable veut contrôler le monde pour empêcher les gens de connaître Dieu, alors il va empêcher les gens de connaître la repentance. En instaurant la théorie de la non-culpabilité. Parce que celui qui n'est plus coupable, ok, il peut commettre le mal dans toute la liberté possible. Cette liberté qui est pour nous une grande valeur très chère ici en France et dans l'Europe, va nous permettre de faire tout ce qu'on veut sans le moindre sentiment de culpabilité. Alors, puisqu'on n'est pas coupable de ce qu'on fait, on considère que ce qu'on fait est bon. Donc, on peut se laisser aller. On peut se laisser aller. Et ça donne naissance à tous les dérives. À tous les dérives. L'échangisme. Les rapports sexuels à plusieurs. Il y a des gens qui s'amusent à le faire normalement. Il y a des couples mariés qui trouvent normal de faire des partout, etc. Échanger, etc. Mais il y a des choses, je vous assure, si vous êtes à la pointe d'information, vous lisez ces choses, ça vous choque. Où va le monde? Et le diable contrôle le monde comme ça. Et les gens, aujourd'hui, appellent bien ce qui est mal. Et le mal, ils appellent ça bien. Le diable a changé l'usage naturel des choses en un usage contre nature. Pour amener les gens dans le péché. L'arme du péché. Et ces choses-là sont en train de rentrer dans l'église. Au point que, quand maintenant on parle de ce qui est normal, plus que la mentalité des êtres humains ont été formatées dans l'autre sens inverse, alors quand tu parles de ce qui est droit, eux ils trouvent que c'est tordu, ils vont te combattre. Ils vont te combattre. Voilà pourquoi l'évangile est difficile actuellement dans le monde. Parce que le monde a été formaté dans le sens inverse. Et nous les chrétiens, nous transportons un message contraire. Voilà pourquoi il y a opposition. Et la Bible déclare que les deux sont opposés. La chair, le péché, est opposé à l'Esprit de Dieu. Et le diable utilise ces choses-là. Vous allez noter ce verset. 1 Timothée, chapitre 5, verset 24. 1 Timothée, chapitre 5, verset 24. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Donc le diable va utiliser deux dimensions dans le péché. La dimension de la liberté. Donc les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, ok, et ils sentent bien. Donc ces gens-là, leur péché est manifeste, ok, et ils assument, ok, il est ce qu'il est, il assume, ok. Et ça se voit, c'est manifeste. Les œuvres de la chair sont manifestes, selon Galates chapitre 5. Pour cela, il n'y a pas de problème. Bon, ça, ce sont les gens du monde. Maintenant, au niveau des chrétiens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mais toi, tu es chrétien quand même. En tant que chrétien, tu n'as plus le droit de faire telle chose. Maintenant, si les gens voient que tu es en train de faire telle chose, ce n'est pas normal. Tu n'es pas chrétien. Ils vont, tu vas avoir un mauvais témoignage. Et même à l'église, le pasteur ne pourra même plus te donner les responsabilités. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, tu sais, il va te faire croire que tu as le droit de pécher. Ok? Mais pourvu que ce soit en cachette. C'est pourquoi la Bible déclare que il dit, les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Le païen, tu n'as pas besoin de juger le païen. C'est clair, il te montre qu'il est dedans. Et il assume. Ok? Mais, tandis que chez d'autres, il ne se découvre que dans la suite. Pourquoi? Parce que c'est caché. Et l'une des armes que le diable utilise dans l'église, c'est le péché caché. Et beaucoup de chrétiens vivent dans le péché, mais caché. Il y a un pasteur qui rendait un témoignage qu'il suivait un couple. Et puis le mari a confié au pasteur un jour qu'il trompait sa femme. Et puis le pasteur dit, mais comment, depuis combien d'années? Il a dit, tant d'années. Il dit, mais comment depuis là, tu trompes ta femme, ta conscience ne te dit rien? Il dit, pasteur, je ne me comprends pas. Il dit que même quand je trompe ma femme, dès que j'ai réussi mon coup, je suis content. Vous imaginez ça? C'est-à-dire qu'en fait, son inquiétude, c'est de ne pas être... Dès qu'il a réussi son coup, il est content. À quel point le diable peut aliéner la conscience des êtres humains dans le mal? Et aussi longtemps que le péché est ignoré, il est content. Il arrive à l'église. En fait, quand vous louez le Seigneur avec lui, vous chantez, ok? Quand je vois la bonté de mon Dieu, la joie qui t'anime là, ce n'est pas la même joie qui l'anime. En fait, lui, la joie qu'il anime, c'est le fait que tout le monde autour de lui n'est pas au courant de ce qu'il fait. Donc, il s'infiltre au milieu de vous comme vraiment un agneau. Ok, il est là. Et puis, alléluia, alléluia. Donc, quand il te regarde comme ça, c'est pour dire que, oh, je t'ai eu. Tu ne m'auras pas. Tu ne me verras pas. Et aussi longtemps qu'il sera là-dedans, il sera content. Mais sa joie, elle provient d'où? Du diable. Qui l'amène à comprendre que ce qu'il fait est bon. Vous comprenez? Et il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans le péché de façon cachée. Aussi longtemps qu'on ne le voit pas, ils pensent que bon, tout ça va bien. Et comme il a des grâces, et le moins il prie, il a des résultats. Il demande à Dieu des choses, il obtient, il dit, ah, donc Dieu est avec moi. Or, ce qu'il ignore, c'est qu'il y a la grâce. La grâce est une faveur. Tu ne le mérites pas, tu fais grâce. Des fois, même là où le péché abonde, la grâce surabonde encore. Vous comprenez? Mais la grâce est trompeuse, dit la parole de Dieu. Donc, si tu suis seulement la grâce, après un jour, tu te retrouves, toute la vie, toute ta vie sur la terre, tu suis la grâce. Tu vis que sous la grâce. À la fin, tu te retrouves dans l'éternité de l'enfer. Tu dis, comment ça, moi, je comprends pas, non? Parce que la grâce t'a trompé. C'est pour cela qu'il faut comprendre qu'il y a une différence entre la grâce, okay, et la bénédiction. La bénédiction, elle repose sur l'application des principes de la parole de Dieu. Deutéronome 28 déclare, si tu obéis au commandement de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni. Dans tel domaine. Donc en fait, ne recherche pas la grâce. Recherche la bénédiction de l'Éternel. Et puis la grâce ne rend pas riche. C'est la bénédiction qui enrichit. Alléluia. Donc si tu cherches ces principes de la parole de Dieu, tu vas marcher dans l'obéissance, dans la sanctification. Et le diable va t'aveugler. Il va te dire, vis dans le péché. Et la grâce va surabonder. Puisqu'il y a la grâce surabonde. Tu es content, tu dis que je suis dans le bon. Tu ne sais même pas que parfois, tu bénéficies de l'onction corporative. l'onction communautaire, le fait que là où deux ou trois sont rassemblés sur la terre au nom de Jésus, il y a des choses qu'on demande, Dieu donne. Parce que nous sommes rassemblés comme ce soir, on est venu là pour prier, on va prier, Dieu va donner. Il va donner pourquoi? Il va donner peut-être parce que la sœur Ludivine a prié, le frère David, le frère Stéphane, on s'est accordé. Si ça ne dépendait que de toi, Dieu ne devait même pas te donner ça. En fait, quand Dieu te regarde, même si ça ne dépendait que de toi, il ne t'aurait pas donné. Mais parce que le frère Stéphane, Grégory, Ludivine, tel, vivent dans la sanctification, ils se sont accordés avec toi, ils ont imploré la grâce de Dieu, Dieu donne. Parce qu'il a dit là où deux ou trois s'accordent, ils se sont accordés, ils donnent. Sinon, le diable attaque sa justice, donc pour être juste, Dieu donne. Et c'est des grâces. Et le péché nous aveugle. Au point qu'il nous empêche réellement de découvrir qui est Dieu. Et le diable utilise le péché. Et je pourrais citer plein de péchés. Le péché du sexe. Le péché du mensonge. Le péché de la cigarette. De l'alcoolisme. C'est des péchés. On vous a fait croire que c'est des liens. Là encore, c'est un mensonge du diable. Ok? C'est pas des liens. C'est vrai qu'il peut y avoir des liens, mais c'est aussi un péché. Parce que le fait de prendre la cigarette, ça détruit ton corps. Or, ton corps est le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit. Donc, si tu détruis le corps, le temple de Dieu, si tu détruis la maison de Dieu, Dieu va habiter où? Tu veux faire de Dieu un SDF? Vous comprenez? C'est ce que Dieu n'aime pas. C'est de le prendre et de le faire dormir dehors. La pluie vient, Dieu, mouille-toi. L'hiver, mouille-toi. La chaleur, mouille-toi. Non, c'est une image qui montre que quand Dieu est hors de notre vie, Dieu considère ça comme un péché. Parce que le péché, c'est quoi? C'est passer à côté du but. Toi-même, tu connais le péché que tu caches. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je compte sur le Saint-Esprit qui convainc de péché et qui te parle en cet instant que voilà tel péché dans ta vie que tu caches. Parce que personne ne peut dire qu'il ne sait pas si ce qu'il fait est un péché. La Bible dit que le Saint-Esprit lui-même rendra témoignage. Le Saint-Esprit va nous convaincre. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc sache une chose, c'est que l'une des armes que le diable va utiliser pour te détruire, pour détruire ta vie et affaiblir l'Église, n'oubliez pas le titre, les armes que le diable utilise pour détruire les chrétiens et affaiblir l'Église, c'est le péché. Numéro 1. Donc déjà en ce moment-là, quand on va prier là, la première chose, Seigneur, révèle-moi encore. De toutes les façons, tu n'as même pas besoin de révélation, tu le sais. Rappelez que les œuvres de la chair sont manifestes, tu le connais. Galates chapitre 5, verset 19, ils sont manifestes. La deuxième arme que le diable utilise pour détruire les chrétiens et affaiblir l'Église, c'est l'arme de l'isolement. Vous comprenez? Quand certains chrétiens, alors il y a plusieurs sortes d'isolement, quand certains chrétiens se sont rendus compte qu'on a découvert leur jeu, okay? Ou qu'ils ont été pris la main dans le sac, la première chose que Dieu va faire, c'est la culpabilité. Mais il y a deux sortes de culpabilité. L'apôtre Paul nous dit qu'il y a une tristesse qui mène au salut et il y a une tristesse qui mène à la mort. Donc, si tu es culpabilisé par le Saint-Esprit, c'est normal. Ça va t'amener à la repentance, tu vas demander pardon à Dieu et tu seras pardonné. Et tu vas retrouver la joie du salut. Par contre, le signe que la culpabilité que tu as dans ton cœur vient du diable, c'est que ça te conduit à la mort. Donc ça te pousse à te retirer de l'Église. Parce que tu es dans le péché, tu dis non, je vais me sentir jugé. Et quand tu rentres, en fait quand tu regardes les frères, tu n'as même plus le courage de regarder les frères et les sœurs en face. Et le diable te fait croire, à chaque fois que tu regardes un frère et une sœur, que tu vois, quand il te regarde là, elle est au courant. Tu as vu comment elle t'a regardé là? Tu as vu, après, les parties parler avec le frère Bruno. Tu as vu, non? Mais quand il parlait, tu ne voyais pas comment il te regardait de temps en temps. Et quand tu le regardais comme ça, il se retournait vite. Donc, le frère Bruno et la sœur Nadège sont au courant de ton problème. Et quand tu te retournes comme ça, tu dis, ah, le frère David aussi. Le frère David, bon, il n'était pas très, très concentré, il était pressé. Bonjour, frère David. Oui, bonjour. Tu as vu? Même la façon dont tu t'as répondu là. C'est quand il te regarde là, il te voit comme une pécheresse. Et ça trotte dans la tête. Tu dis, bon, d'accord, je vais quand même repartir encore aujourd'hui à la réunion. Tu reviens à la réunion. Tu croises le pasteur. à l'entrée. Bonjour, pasteur. Bonjour. Ou bien, je n'ai même pas entendu. Bonjour, pasteur, je passe. Je suis tellement concentré, je rentre du monde. Tu as vu? Là où le pasteur ne te salue plus là. C'est que toute l'église est au courant. Des fois, le pasteur n'est même pas au courant. Il n'est même pas au courant. En Casablanca, je me suis surpris quand j'étais en train de prêcher. J'étais en train de dévoiler des choses qui étaient à l'église, je ne savais pas. Je dévoilais des choses, je dévoilais. À la fin, comme je logeais sur le pasteur, avec mon épouse, il me dit, « Ah, pasteur Sosten, votre ministère de prophète là, vraiment c'est compliqué. » Et ça me fait peur parce que c'est là où c'est difficile à gérer, parce que vous avez dépouillé tous les secrets de l'église, les problèmes qu'il y avait dans l'église, pendant que vous êtes en train d'enseigner là. Mais mon inquiétude, c'est que, comme tu loges chez moi, j'ai peur. Les gens vont peut-être penser que je t'ai tout dit. Voilà pourquoi tu es venu tout livrer. Je dis non, ne t'inquiète pas. Quand le Saint-Esprit agit, il agit. Tu n'as pas besoin de te justifier. Ok? Et parfois, donc, des fois, je peux me mettre à prêcher ici. J'ai dit des choses sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et le diable te dit derrière, tu as vu, quand il parle de toi. Donc, il va faire la combinaison entre la discussion, l'apartheid de Nadège, le frère Bruno, avec le frère David qui t'a pas vraiment salué, et le pasteur, et ce qu'il dit, et une logique, vraiment, permettez-moi la répétition, logique, s'installe. Conclusion, l'église est au courant de mon problème. Maintenant, on prêche là-dessus, on prêche contre moi. Alors, à cause de cela, je me retire de l'église. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé la culpabilité pour conduire à quoi? À l'isolement. Ça c'est, une façon d'isoler. Une autre façon d'isoler, c'est quoi? Il va te refroidir. On le verra tout à l'heure. Le fait de ne pas aimer la communion fraternelle. Donc, il va te mettre un sentiment de solitude. Il y a des gens comme ça. Après la réunion, il s'en va. Pourquoi? Peut-être parce que dans le passé, il y a eu beaucoup de antécédents. Il a été dans telle église, il a été dessus. Il a été dans telle église, il a été dessus. Et donc, il arrive là, il est très, très méfiant maintenant avec les églises. Surtout les églises de réveil, là. Là où on parle beaucoup en langue, là où on chasse les démons, etc. Et comme j'aime à le dire, surtout les églises là où il y a les noirs. Oui, il paraît que c'est une réputation, le fait de parler beaucoup aussi chez les Africains, les noirs. Ok. Donc, le diable va lui mettre tout ça dans la pensée. Et il va venir, il va s'asseoir au fond de la salle. Il va observer. Il vient peut-être parce que la louange est très intéressante. Il est béni pendant les temps de louange. La prédication, l'enseignement, c'est super dans cette église. Il vient pour ça. Et quand il a fini, il s'en va. Aucun contact avec les gens. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, il faut prier pour la personne et demander à Dieu la sagesse pour l'approcher. Parce que certainement, cette personne est sous l'influence, okay, d'un sentiment d'isolement que le diable a injecté dans son esprit. Et elle se méfie de tout le monde. Elle se méfie de tout le monde. Elle devient méfiante. Et ça arrive à beaucoup de personnes dans l'église. Par rapport à une situation bien précise, le diable va vouloir t'isoler, te sortir de la communauté, te sortir du groupe. Parce qu'il sait qu'il y a un principe qui dit que lorsque on retire un arbre, un bois, autant pour moi, une braise de son foyer, du feu, eh bien la braise finit par s'éteindre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va t'isoler, il va te retirer. Et pour rien, pour tout et rien, il est capable de t'amener à croire que tout le monde est contre toi. Alors retire-toi. Que les gens ne t'aiment pas, ok? Il n'y a pas l'amour, ok? Il n'y a pas l'amour. Donc, retire-toi. Il n'y a pas l'amour. C'est des stratégies du diable, bien-aimé. N'oubliez pas le thème, hein, c'est les 7 armes que le diable utilise pour détruire les chrétiens et affaiblir l'église. C'est une cartographie que j'aimerais nous donner au travers de cet enseignement, pour nous amener à voir clair, quand on regarde l'église, quand on regarde nos frères et sœurs, pour nous amener à discerner l'œuvre du diable et à pouvoir prier afin d'empêcher ces choses et de vivre dans la victoire. Alléluia! Parce que cette année, il faut que l'église de Christ à Bordeaux soit forte, victorieuse, triomphante et qu'elle impacte son environnement. Et pour cela, vous devez être capable d'identifier, de déceler, de discerner les pièges de Satan. L'isolement, le sentiment de solitude, le manque de communion fraternelle, le refroidissement, le manque de zèle, Quand il y a ces symptômes-là, sachez bien aimé qu'il y a un problème. Or, la Bible déclare dans Psaume chapitre 133 qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ok? C'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe, sur le long de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, ok, qui descend des montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la bénédiction en abondance. Le diable sait que la bénédiction est dans l'Église. Le diable sait que la bénédiction est dans le corps de Christ. La bénédiction est dans la communion fraternelle. Elle est dans les rassemblements. Il y a la bénédiction de l'Éternel qui coule comme une onction corporative. Et il va tout faire pour t'empêcher de prendre cette bénédiction. Il va t'isoler. Et tu vas croire que tout seul, tu peux t'en sortir. Il y a une âme jusqu'à présent, ça fait plus d'un an et demi, elle ne vient plus à l'église. Mais mon épouse et moi, on continue à la fréquenter, on continue à la suivre. On continue à aller prier avec elle. Et on continue à la soutenir. Parce qu'on a identifié que cette personne, le diable, a réussi à l'isoler. Elle s'est donné une philosophie, elle a dit, en fait, elle n'ira nulle part dans une église. Elle restera chez elle. Elle priera son Dieu. Parce qu'elle est convaincue que Dieu l'écoute. On n'a pas besoin d'être à l'église pour être chrétien. On peut être un bon chrétien sans aller à l'église. On entend souvent ça, n'est-ce pas? Et puis, c'est vrai qu'il y a des bons chrétiens, en fait, disons, des bons, oui. Il y a des personnes irréprochables, point de vue moralité, etc. Ils vivent la sanctification, il n'y a pas de problème. Vraiment, ils respectent la parole de Dieu. Même leur dîme, des fois, ils envoient, okay, à des œuvres missionnaires, etc. Ils sont corrects, mais ils vivent chez eux. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à les faire croire au travers d'une pensée que, en fait, toutes les églises sont mauvaises, il n'y a rien de bon. L'église, c'est le corps de Christ, même si tu es chez toi, tu es dans le corps de Christ. Donc, reste à la maison. C'est un piège du diable. C'est la stratégie de l'isolement. C'est une arme puissante que le diable utilise pour détruire la vie de beaucoup de chrétiens. Le danger, c'est quoi? C'est que quand tu vas rester là-bas tout seul, tu ne pourras pas être une bénédiction au corps. Ah, quand il a réussi ça, donc il va te dire, bon, reste-toi tout seul. Donc, tu ne peux pas bénir les autres. Toi non plus, tu ne peux pas te bénir par la bénédiction du corps. Et il y a des projets dans ta vie qui ne pourront jamais aboutir. Tout simplement parce que tu n'appartiens pas à une église. Il y a des choses qui ne pourront pas se réaliser. Tout simplement parce que tu n'appartiens pas à une communauté, tu n'appartiens pas à une assemblée. Parce qu'il y a des choses qui se déclenchent dans la communauté, bien-aimé. Il y a des bénédictions qui ne viendront pas du ciel comme ça. Ça viendra, ça passera par un frère. Mais ce frère se trouve dans l'église. Peut-être que dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui connaît bien telle personne et qui a la clé au problème de ton accession à la propriété ou le problème de ton entreprise. Dieu peut passer par un frère dans l'église. Mais toi, tout seul à la maison, comment tu vas y arriver? Et le danger avec le sentiment d'isolement, l'arme d'isolement, c'est que ça te conduit à l'orgueil. Tu penses que tu t'auto-suffis. Tu n'as pas besoin des autres. Donc tu peux te débrouiller tout seul. Spirituellement, tu as les dons spirituels, tu as tout, tu peux prier à la maison. Non. David déclare qu'elle a été donnée à l'église. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, pour l'édification du corps, l'église. Tu ne peux pas te suffire tout seul. Tu as besoin des autres ministères. Alléluia. Donc l'isolement est très dangereux. Même pour une église. Ce n'est pas bon pour une église d'être isolée. Il y a des églises aujourd'hui, elles sont seules. Elles pensent qu'elles ont le monopole de la connaissance, de l'onction. Donc, elles ne peuvent pas se mélanger avec les autres. Et si elles doivent aller avec quelqu'un, il faut que cette personne-là épouse leur vision, épouse leur message. Sinon, tu es dans le faux. Et elles ont oublié de comprendre que, en fait, le royaume de Dieu, c'est un grand territoire. Et que chaque église a reçu une portion de la vision du royaume. Donc chaque église va travailler dans la vision que Dieu lui a donnée, mais dans la complémentarité avec les autres églises qui ont reçu aussi une autre vision. Et si une église s'isole, elle devient une secte. Elle devient une secte pernicieuse. Même si elle prêche la Bible, même si elle donne spirituel, même si elle a l'onction, même si elle a le Saint-Esprit, parce que tu es isolé, tu deviens une secte. Tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. Est-ce que le bras peut dire au pied, je n'ai pas besoin de toi? Est-ce que l'œil peut dire à la main, je n'ai pas besoin de toi? Mais quand l'œil va gratter là, quand ça va gratter là, ça va démanger là, qui va gratter? C'est pas la main? Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc c'est important vraiment de ne pas se laisser prendre par le piège de l'isolement. Ok? C'est vrai que les uns les autres, on a grandi dans des cultures différentes, on a nos comportements, nos caractères, notre héritage, ok, familial, culturel. Il y a des blessures qu'on traîne avec nous, c'est vrai. Les hommes nous ont dessus, on ne fait plus confiance à un homme n'importe comment. Il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça, ça m'a choqué. Je lui disais, je veux faire de toi un ami. Il me dit, ami. Pasteur, tu sais ce que c'est ami? Dis-moi, plus jamais dans ma vie, je vais avoir des amis. Je dis, mais pourquoi? Parce que dans sa conversion, un jour, il est tombé dans le péché et il s'est confié à un ami, un frère qu'il appelait ami. Et plus tard, l'affaire était connue de toute l'église. Mais comme il savait que c'était lui la seule personne à qui il avait dit ça, il a dit, pasteur, je ne lui ai plus rien dit. Quand j'ai vu ça, je ne suis même pas reparti vers lui pour lui dire que, est-ce que c'est toi qui as dit? Je savais que c'était lui qui avait dit. Je savais que c'est lui qui avait dit à toute l'église. Donc, depuis ce jour, j'ai coupé les ponts. Et depuis ce jour, j'ai décidé que plus jamais dans ma vie, je vais avoir des amis. Je peux avoir des connaissances, des relations, voilà, fraternelles, amicales, mais pas amis, non. C'est du diable. Tu as besoin d'être libéré de ça. Tu as besoin d'être guéri de ces choses pour sortir de l'isolement. Alléluia. Parce que 2 Pierre chapitre 1 verset 7 nous dit que nous devons rechercher l'amour fraternel, la charité, l'amour fraternel et la charité. Quand quelqu'un est dans l'isolement, il y a un danger, c'est quoi? C'est que il tombe dans le manque de zèle. C'est-à-dire que quand tu viens à l'église, ok, le diable sait que quand tu viens à l'église, il y a des choses dont tu seras guéri. Aujourd'hui dans le monde, je vois, partout où je passe pour donner des informations, les gens ont besoin d'un message. Tout le monde, dans le monde entier, ils ont besoin d'un message. Un message de motivation et de restauration. Et le Seigneur m'a fait la grâce que chaque fois que je parle de management de communication, j'allie les concepts à la parole de Dieu, je leur fais passer un message biblique sans qu'ils le sachent. Et à la fin, ils sont toujours motivés, ils sont contents, mes classes...
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.